BFM Bourse, le club de la bourse.
Avec Vincent Chéniaud qui nous accompagne aujourd'hui, directeur de la recherche de Generali Investment. Bonjour Vincent Chéniaud.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner en ce 8 mai, en ce jour férié, je vous en suis très reconnaissant. Heureusement, on a beaucoup de sujets à aborder, hein, puisque même si c'est une journée, un jour férié à la Bourse de Paris, eh bien, je le disais, il y a pas mal de sociétés qui ont dévoilé leurs résultats, on a pas mal de statistiques également qui ont été dévoilées aux États-Unis, et puis aussi, la Banque centrale de Suède qui a annoncé baisser ses taux. Alors ce n'est pas la banque centrale qui est regardée par tous les opérateurs, mais bout à bout, on a pas mal de banques centrales après la Suisse, après la Suède, qui commencent à amorcer des baisses de taux.
Oui, en effet. Donc la Suisse et la Suède sont les premiers à tirer parmi les grandes banques centrales. Et ça laisse présager d'un mouvement plus généralisé à mesure où l'inflation baisse. Alors, c'est vrai que la Suède est dans un cas un peu particulier dans la mesure où ils ont une croissance négative du PIB sur les quatre derniers trimestres. Donc, c'est une situation qui est pire encore que ce qu'a connu la zone euro. D'où cette première baisse de taux à 3,75%. Mais effectivement, ça laisse présager d'un mouvement plus global. Et notamment, on attend avec une quasi-certitude, une baisse de taux de la BCE lors du meeting de juin, à moins évidemment que le chiffre d'inflation des prix à la consommation pour le mois de mai soit catastrophique. Mais autrement, il semble que la première baisse de taux de la BCE soit promise pour le mois de juin.
Avec également la Banque d'Angleterre qui va se réunir demain. On se souvient qu'il y a quelques jours, le 1er mai même, c'était la fête qui s'était réunie. Donc là, on est vraiment dans une phase de communication intense des banques centrales. Qui voit l'inflation reculer en Europe. Aux États-Unis, c'est plus compliqué. L'inflation est toujours collante, au point que les investisseurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les scénarios de baisse de taux, avec un consensus qui a quand même du mal à se former.
Oui, en effet. Alors, le marché a révisé de façon très agressive ses anticipations de baisse de taux aux États-Unis, puisque au tournant de l'année, le marché anticipait quasiment 7 baisses de taux de la Fed cette année. Aujourd'hui, il anticipe moins de 2 baisses. Et en particulier, la majorité des investisseurs pensent maintenant que la première baisse ne viendra qu'en septembre, voire pour certains, en décembre. Alors, c'est vrai que septembre, pour nous, est le scénario le plus probable. Mais je pense qu'il y a encore une fenêtre de tir sur juillet, sachant que le meeting de juillet est le 31 juillet, donc tout à la fin du mois. Et que d'ici là, on aura 3 batteries de chiffres d'inflation. Si ces chiffres d'inflation s'avéraient plus faibles, pourraient ouvrir la porte à des baisses de taux de la Fed. Donc, plus de patience côté américain, mais il nous semble que beaucoup de mauvaises nouvelles inflationnistes sont déjà dans les prix. Et peut-être que le marché est devenu trop pessimiste sur la Fed.
Ah oui, carrément, pessimiste. Parce que c'est vrai que le marché, je disais en introduction, le CAC 40 dividende réinvesti est sur des plus hauts historiques. À Wall Street également, le S&P 500 est toujours au-delà des 5000 points. Le marché est solide quand même.
Oui, alors, le marché a résisté de façon assez formidable, en effet, à la révision des anticipations sur les banques centrales. Donc, plus pessimiste sur les chances de baisse de taux, mais plus optimiste globalement sur les profits après, effectivement, une saison de résultats du premier trimestre qui est quand même globalement très favorable, avec également cette idée qu'on a une reprise globale qui se profile. Enfin, au premier trimestre, la croissance en zone euro a été positive, à plus 0,3% en variation trimestrielle. On a la Chine également qui a surpris à la hausse sur le premier trimestre, une croissance de 5,3% en glissement annuel. Et on a des signaux selon lesquels le secteur manufacturier enfin sort de l'ornière. Donc le marché a intégrer un certain nombre de bonnes nouvelles sur la croissance globale qui a permis au marché actions de très bien résister, naviguer cette période de révision des anticipations sur les banques centrales.
Avec notamment 85% des sociétés du S&P qui ont dévoilé leurs résultats. Et alors c'est FactSet qui nous donne ce chiffre, 80% des résultats sont au-dessus des attentes.
Oui, des surprises très positives. très positive. Les profits sont en hausse, en variation annuelle, et nettement mieux qu'attendu aux États-Unis, hein, environ 10 points de plus que le consensus. Une variation positive en glissement annuel, évidemment tirée en partie par le secteur de la technologie qui est prédominant aux États-Unis, mais globalement une saison qui a été très forte aux États-Unis. Un peu moins forte en Europe, même si là encore, les surprises sont plutôt positives, de l'ordre de 5 points. Mais là, en Europe, on reste sur des variations négatives de profits en glissement annuel, avec notamment des secteurs cycliques qui, malgré la reprise au premier trimestre que j'ai évoqué, les secteurs cycliques qui restent plutôt à la traîne. Donc, les matières premières, évidemment, mais les matériaux, les valeurs industrielles, la consommation discrétionnaire, ce sont des secteurs qui sont un peu à la traîne. Donc, une saison correcte en Europe, mais moins brillante qu'aux États-Unis.
Vincent Chéniaud, vous êtes directeur de la recherche de Generali Investment. Quand vous regardez vos indicateurs, quelle est la suite désormais? Est-ce que les marges des entreprises continuent de se maintenir? Sachant qu'on en parlait, d'ailleurs, je vous invite tous à réécouter John Plassard tout à l'heure à 15h30 avec une épargne Covid aux États-Unis qui a fondu, en fait. C'est-à-dire que le consommateur américain qui était très fort, maintenant, il n'a plus d'épargne. Alors certes, il a sa carte de crédit, mais jusqu'où va tenir cette consommation aux États-Unis?
Alors, l'économie américaine a fait preuve d'une résistance formidable après cette séquence de hausse de taux directeurs très, très violente qu'on a connue sur 18 mois. Et donc, l'économie américaine a surpris le consensus à la hausse. Elle reste solide, mais c'est vrai que on voit quand même des signes un peu de fatigue aux États-Unis. Quand bien même, je disais qu'au niveau global, on voit des signes d'amélioration. Aux États-Unis, on voit quand même quelques signes de tassement, notamment sur le marché de l'emploi. Vous parlez de la consommation, évidemment, la vigueur dans l'emploi est un élément très, très important. Si vous regardez les enquêtes des consommateurs, notamment sur la facilité pour trouver un emploi, les choses commencent à se dégrader. Si vous regardez aussi le taux de démission, le taux de démission est en train de baisser, ce qui suggère également que le marché de l'emploi devient un peu moins vigoureux. On a des créations d'emplois aussi, le fameux rapport JOLTS, qui devient un peu moins solide. Donc, c'est vrai que on a là des signaux qui deviennent un peu moins vigoureux aux États-Unis. On a également les petites entreprises qui donnent des signes de faiblesse par opposition aux grandes entreprises. On a parlé des profits du S&P, mais si on regarde la situation des petites entreprises, elle est assez différente. Donc aux États-Unis, c'est vrai qu'on a quand même des signaux de tassement.
Et sur le front de l'emploi, c'est vrai que le taux de chômage reste toujours sous les 4%. On verra demain avec les inscriptions hebdomadaires au chômage comment ça se passe en ce début du mois de mai. Mais du côté des entreprises, il y a quand même un gros travail qui a été fait sur les coûts. Hein, dans toutes les publications, les entreprises communiquent sur les réductions de coûts. Comment aujourd'hui elles arrivent à redresser leurs marges, à réduire les coûts sans avoir d'impact sur l'emploi aux États-Unis? C'est quand même assez fort.
Ça devient compliqué, je dirais. Bien évidemment, on a eu pendant la période Covid ce qu'on a appelé la Greedflation. Donc les entreprises ont profité de cet environnement inflationniste pour monter les prix et faire gonfler également les marges. Là, on voit que, donc clairement, cette stratégie de marge a contribué au processus, a accentué le processus inflationniste. Aujourd'hui, on voit que ces marges ne progressent plus. Et donc, il y a là encore une certaine fatigue. Et je pense que précisément, parce que si on regarde par exemple l'enquête des prix à la production, le PPI, qui nous donne une indication sur les marges, on voit effectivement une stabilisation. Donc les marges ne baissent pas, mais elles ont arrêté de grimper. Et ça pourrait impliquer des entreprises qui commencent à serrer la vis sur l'emploi, et ça pourrait nous conduire effectivement à des créations d'emplois beaucoup plus faibles dans les mois qui viennent. C'est ce que nous attendons en effet.
En tout cas, trimestre après trimestre, elles arrivent à surprendre positivement. Elles ne donnent pas la recette miracle, la façon dont elles y arrivent, mais à chaque fois, ça tient.
Encore une fois, les marges sont très élevées d'un point de vue historique. Elles restent très élevées, mais elles ne progressent plus. Alors, on a eu des plans d'économie. On a eu également, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui permet également d'opérer des gains de productivité. On a vu un fort rebond de la productivité qui participe également à ce phénomène de marge élevée. En l'occurrence, sur la productivité, on voit également plutôt un tassement. On a vu plutôt un tassement au premier trimestre, ce qui confirme également ce sentiment que les marges sont en train de plafonner aux États-Unis.
Vous restez avec nous, Vincent Chéniaud. Dans un instant, on va parler de différents indicateurs que vous avez repérés. Mais juste avant, on a Aude Kersulet qui nous attend à la Bourse de Paris, parce que dans précisément 19 minutes, ça sera le fixing. Avec Aude, un CAC 40 qui, après avoir gagné 1% hier, continue de plus belle avec une belle variation aujourd'hui.
Oui, on devrait être un tout petit peu moins élevé qu'hier en termes de progression, mais plus 0,8% tout de même. Les 8140 points avec pas de belles progressions quand même pour le CAC 40. Certaines valeurs, Schneider Electric qui a son plus haut historique à 226 euros, qui progresse de 2,2% devant Veolia, AXA également. Mais c'est hors CAC 40 que ça se passe particulièrement bien pour Alstom après sa publication annuelle ce matin. Alors même si on a publié un résultat net dans le rouge et puis on a annoncé une augmentation de capital. Finalement, tout ça a été attendu. Et la valeur rebondit sur son second semestre, qui est quand même passé beaucoup mieux que prévu. Et puis, des perspectives aussi qui sont meilleures qu'anticipées. Donc, plus 8,4% pour Alstom à 16,97 €. Et puis, si on va aussi du côté de l'Allemagne, là, on a une valeur qui progresse énormément. C'est Siemens Energy. Pourtant, elle avait quand même pas mal déçu les investisseurs ces derniers trimestres. Et bien là, on a de bons résultats. On a aussi un remaniement de la division éolienne. Siemens Gamesa qui a été plusieurs fois en perte. La valeur prend 10% donc à Francfort.
Merci beaucoup Aude Kersulet. On vous retrouve dans un peu moins de 20 minutes pour le fixing à la Bourse de Paris et donc une nouvelle séance de hausse pour le CAC 40 à 8140 points quand du côté de Wall Street c'est beaucoup plus hésitant. Vincent Chéniaud qui est donc avec nous, directeur de la recherche de Generali Investment, avec forcément ce qui porte également les marchés, c'est la détente du marché obligataire. Quand vous regardez la référence, le 10 ans américain, il était à 4,7% il y a une dizaine de jours, là il redescend à 4,5%, il a perdu une vingtaine de points de base, forcément, ça explique en bonne partie, en plus des résultats d'entreprise, la bonne tenue des marchés actions.
Absolument. Alors, le marché obligataire et les marchés dans leur ensemble ont très bien réagi, notamment à la réunion de la Fed la semaine passée. Le marché était assez inquiet sur un durcissement de ton de Powell, qui en réalité ne s'est pas produit. Powell a dit, certes, il va falloir être patient pour que l'inflation revienne vers notre objectif, mais il a clairement confirmé que le biais était à la baisse des taux directeurs et non pas à la hausse des taux directeurs, malgré les déceptions qu'on a connues sur le premier trimestre sur l'inflation. Donc le marché a été vraiment assez rassuré par cette tonalité. Et en effet, les taux longs se sont détendus d'une vingtaine de points de base, comme vous dites. Je pense que là, le potentiel persiste. Je pense qu'en effet, autour de 4,70 sur les taux longs américains, on a peut-être touché un pic et on devrait connaître une détente future, notamment parce que, comme je l'ai dit, le marché a intégré beaucoup de mauvaises nouvelles sur l'inflation, donc une inflation qui a été collante, qui a été trop élevée. Je pense que le marché a intégré beaucoup de mauvaises nouvelles au premier trimestre. On a des signaux qui nous laissent dire que l'inflation va finalement se détendre aux États-Unis, si on regarde notamment la composante loyer, si on regarde également la dynamique des marges, comme je l'ai dit, si on regarde les salaires qui sont en train de se calmer, avec notamment la baisse du taux de démission, en général c'est un signal précurseur sur les salaires. Donc on devrait avoir cette baisse de l'inflation qui va ouvrir la porte à des baisses de taux aux États-Unis et qui devrait opérer, faciliter un repli des taux longs, surtout si l'économie américaine commence à se tasser, comme je l'ai dit. Donc sur les taux longs américains, il nous semble qu'en effet on a peut-être connu le pic et on est dans une phase de détente qui va se poursuivre.
Et ça c'est bon pour les marchés actions, avec notamment des valorisations qui se détendent, hein, forcément pour les entreprises de croissance. Il y a également une statistique intéressante que vous avez remarquée, c'est la confiance entre les patrons de grandes entreprises et puis les patrons des PME aux États-Unis, oui, avec une confiance qui a été mesurée. Quelle est la différence, le potentiel entre ces deux statistiques?
Alors, il y a une certaine dissonance qui, en effet, est vraiment très inhabituelle. Les grandes entreprises sont plutôt très confiantes, et c'est confirmé par ce dont on a discuté, les marges, les profits très élevés, les bons résultats. Et de l'autre, les PME, qui sont plutôt assez pessimistes. Et ça s'est traduit d'ailleurs par une certaine déception au niveau des small caps, des marchés small cap, qui n'ont pas bénéficié de l'embellie qu'on a eue sur les valeurs cycliques au tournant de l'année et au premier trimestre. Ça s'explique en partie par le fait que les petites entreprises sont plus sensibles au niveau taux. On a parlé de taux longs notamment très élevés. On a parlé d'une Fed qui ne baissait pas aussi vite que prévu. Les petites entreprises sont plus exposées à ces taux élevés et à ce risque de refinancement. Donc ça, je pense que ça a beaucoup pesé sur la confiance et sur la performance plutôt décevante des mid-cap. Mais du coup, si la Fed baisse ses taux cet été ou à la fin de l'été et qu'on a ce repli des taux longs qui se poursuit, la situation pourrait s'améliorer au niveau des small cap, au niveau des petites entreprises. Mais c'est vrai que les signaux qu'on a au niveau des PME aujourd'hui aux États-Unis, qui sont, rappelons-le, des grands pourvoyeurs d'emplois, ne sont pas très bons et ça devrait contribuer, ça également, au ralentissement de l'emploi et de la consommation dont vous avez parlé sur les prochains mois.
Et en même temps, ça serait une bonne nouvelle pour l'emploi parce que les petits patrons, tout est relatif. Eh bien, ont le moral, ils vont se remettre à recruter. Donc, il faut trouver l'équilibre pour ne pas mettre l'économie américaine en surchauffe.
Voilà, donc... Il y a des décalages importants. Aujourd'hui, le pessimisme, je dirais, dans les PME devrait se traduire au niveau de l'emploi par des chiffres un peu plus médiocres dans les mois qui viennent. Mais ensuite, effectivement, si les taux longs rebaissent, si la Fed baisse les taux, on verra une amélioration plus tard cette année à ce niveau-là.
Pour clôturer cet entretien, un dernier mot quand même sur l'allocation. Comment ça se passe aujourd'hui chez Generali Investment ?
Alors, en l'occurrence, nous aimons l'idée de repondérer la duration, de mettre de la duration dans les portefeuilles pour bénéficier de ce repli des taux longs. Je crois que c'est une vue assez consensuelle cette année que les taux longs allaient baisser. Cette vue a été punie très largement sur les 3-4 premiers mois de l'année. Là, aujourd'hui, sur les niveaux actuels, il nous semble que ça fait du sens. On continue à bien aimer la classe d'actifs Crédit Investment Grade, qui offre un couple rendement risque qui nous semble bon. Et sur les actifs plus risqués, les actions, le high yield, après la bonne correction, la hausse récente qu'on a connue, on est un peu plus prudent, assez neutre, mais quand même positif sur le reste de l'année.
Donc fonds à échéance, hein, typiquement, hein, en termes de produits d'investissement sur les taux. Et puis après, en termes de zones géographiques, on voit que les résultats d'entreprises aux États-Unis sont beaucoup plus solides en termes de croissance qu'en Europe. Est-ce que c'est le temps également de rejouer la Chine, sachant qu'il y a peut-être un début là qui s'amorce sur les indices actions en Asie?
Oui, alors bon, la Chine, il y a toujours le risque géopolitique qui est important et qui va perdurer à l'approche des élections américaines. Mais en effet, le marché chinois est en termes de valorisation relativement attractif. Donc là, on peut y aller de façon quand même assez prudente. De façon générale, les marchés émergents, on pense à l'Inde, par exemple, également, offrent des plutôt bonnes perspectives. États-Unis, Europe, tactiquement, en effet, on serait plutôt favorable sur l'Europe, puisqu'on voit au niveau économique, je dirais, un certain croisement. L'Europe a été très longtemps très décevante, et là, l'économie européenne commence enfin à sortir de l'ornière, alors qu'aux États-Unis, comme je l'ai dit, on sent une certaine fatigue. Donc, plutôt une petite préférence pour le marché européen, tactiquement, en tout cas.
Très clair. Merci beaucoup en tout cas Vincent Chéniaud de nous avoir accompagné aujourd'hui. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investment.